est devenu une personne heureuse sans avoir travaillé? Romains chapitre 4, versets 1 à 8. Que dirons-nous donc? Abraham, notre père, a obtenu selon la chair. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. La foi d'Abraham est le salut sans effort humain. L'apôtre Paul a dit, concernant la foi d'Abraham, qu'Abraham n'avait absolument rien dont il puisse se glorifier selon la chair ou par les œuvres. La raison pour laquelle Abraham a pu être reconnu par Dieu, devenir le père de la foi et devenir un saint béni, ayant reçu la rémission des péchés, est uniquement qu'il a cru la parole de Dieu. La Bible enseigne que Dieu n'a pas regardé les œuvres d'Abraham, mais qu'il a regardé son cœur qui croyait en Dieu, et qu'il a considéré cela comme justice. Autrement dit, la foi d'Abraham n'était pas un effort personnel, mais une foi qui acceptait exactement la parole que Dieu avait prononcée telle qu'elle est. Par conséquent, Romains chapitre 4, versets 4 et 5 disent comme suit. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. L'apôtre Paul explique clairement la différence entre travailler et ne pas travailler à travers le cas d'Abraham. La foi d'Abraham n'a ajouté aucun effort, c'était une foi qui croyait en Dieu même sans travailler. Croire exactement en Dieu qui justifie l'impie, voilà la vérité et l'essence de la foi qu'Abraham avait. Nous devons réfléchir profondément à ce qu'est la véritable foi. Aujourd'hui, beaucoup de personnes comprennent mal la foi d'Abraham. Ils enseignent que, puisque Dieu a placé nos péchés sur le corps de Jésus et les a tous réglés sur la croix, maintenant nous devons croire ce fait. Cependant, lorsque l'on se rappelle que la foi d'Abraham n'était pas une foi qui travaille, la volonté ou la résolution elle-même de dire « je dois croire » devient finalement une œuvre, un labeur de la foi. La foi que Dieu exige de nous n'est pas conditionnelle à la manière de dire « je vous ai accordé la rémission des péchés, donc vous devez lutter pour me croire ». Si nous devons lutter pour croire, cet acte même de croire devient une œuvre, même s'il n'est pas physiquement pénible. La véritable foi signifie se tenir devant le fait que Dieu a déjà parfaitement éliminé nos péchés. Cela signifie un état où l'on ne peut plus dire qu'il y a du péché, parce que le péché a déjà complètement disparu, c'est-à-dire un état où l'on ne peut qu'accepter cela sans même avoir besoin de lutter pour croire. Reconnaître simplement et donner son assentiment au fait que Dieu a accompli, voilà la manière dont Dieu a ôté nos péchés et l'apparence de la véritable foi. Dieu nous demande « J'ai éliminé vos péchés, avez-vous donc encore du péché maintenant ?» Il ne nous demande pas le labeur de croire, mais il nous proclame ses enfants parce qu'il a déjà éliminé le péché. Par conséquent, l'Évangile ne met pas l'accent sur l'obligation selon laquelle Jésus est mort sur la croix, donc nous devons croire ainsi. La parole qui dit « Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice, confirme que Dieu nous a sauvés si parfaitement que même ce petit labeur consistant à devoir croire n'est pas nécessaire. Le salut parfait sans mélange de labeur humain. Aujourd'hui, de nombreux chrétiens prêchent l'Évangile en disant qu'ils ont obtenu la suppression des péchés par la foi dans le sang de Jésus versé sur la croix. Il souligne que Jésus est venu sur cette terre et a porté les péchés de l'humanité comme les offrandes sacrificielles de l'Ancien Testament, et qu'en versant son sang précieux sur la croix, il a lavé nos péchés. En même temps, ils enseignent ainsi, puisque Dieu a éliminé tous les péchés de son côté, maintenant seulement si nous croyons cela de notre côté, nous devenons des personnes sans péché. Autrement dit, c'est la logique selon laquelle le péché demeure parce que l'on ne croit pas, et le péché disparaît seulement si l'on croit. Cependant, cela n'est rien d'autre que la foi qui travaille, contre laquelle la Bible met en garde. Comme le dit la parole, mais à celui qui ne fait point d'œuvre, et or, à celui qui fait une œuvre, le salaire n'est pas imputé comme une grâce, car la pensée même que cela devient effectif seulement lorsque je crois pour Dieu devient un labeur et une œuvre devant Dieu. Alors, cela signifie-t-il qu'il ne faut pas croire? Absolument pas. Cela signifie que le salut que Dieu nous a accordé a été accompli de manière si parfaite que les êtres humains n'ont même pas besoin de faire la moindre œuvre. Le Seigneur est venu sur cette terre pour sauver son peuple de ses péchés. Ici, son peuple signifie toute l'humanité créée à l'image de Dieu. Jésus a été baptisé par Jean lorsqu'il eut 30 ans. Le but de ce baptême était de prendre sur lui et de porter tous les péchés de l'humanité. Pour cela, Dieu a envoyé Jean-Baptiste 6 mois auparavant et l'a établi comme le représentant de l'humanité. Jésus a reçu le baptême de Jean, le représentant de l'humanité, en tant que souverain sacrificateur du royaume des cieux. Par ce baptême, le péché de l'humanité a été transféré à Jésus une fois pour toutes, et tous nos péchés ont été réellement effacés. Après cela, Jésus a porté le péché du monde, a versé son sang, et est mort sur la croix, et ressuscité des morts, et est maintenant assis à la droite du trône de Dieu. Ainsi, le Seigneur a parfaitement accompli le salut de sorte que nous n'avons même pas besoin de faire l'effort de croire. Cela ne signifie pas qu'il n'est pas nécessaire de croire, mais que même le labeur de devoir croire nous a été ôté. Une vérité trop claire est reconnue et acceptée d'elle-même, même sans effort pour y croire. C'est exactement ainsi que notre Seigneur nous a sauvés. Pourtant, de nombreux évangélistes témoignent en disant « J'ai cru au fait que Jésus a éliminé mon péché sur la croix, alors le péché dans mon cœur a disparu », mettant l'accent sur l'acte humain de croire. Cependant, cela non plus n'échappe pas à la catégorie de la foi qui travaille. La vraie foi, la découverte de la vérité, et non un labeur religieux. La véritable foi que Dieu donne ne s'obtient pas par une résolution personnelle de notre part. En écoutant l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous en venons à découvrir le témoignage biblique selon lequel Jésus a reçu le baptême à l'âge de 30 ans pour porter nos péchés. Nous en venons à connaître le fait qu'il a pris sur lui les péchés par le baptême et est sorti de l'eau, et qu'en portant ses péchés, il a reçu le jugement sur la croix, est mort et est ressuscité. Au moment où nous entendons et comprenons cette parole, nous découvrons que nos péchés ont déjà été réellement transférés et complètement lavés. Le fait que Jésus-Christ a réellement reçu à notre place le jugement du péché et qu'il est revenu à la vie pour nous sauver s'accomplit tel quel dans nos cœurs. En effet, quelle œuvre avons-nous à accomplir ? Est-il nécessaire de faire le labeur de croire en se promettant « Je ne croyais pas ainsi auparavant, mais maintenant je dois croire ». Même un tel labeur ne nous reste pas. Aujourd'hui, beaucoup comprennent mal le fait que l'apôtre Paul a parlé de la foi d'Abraham, en disant qu'il a cru la parole de Dieu et que cela lui a été imputé à justice. Ils sont zélés en pensant que, même si Dieu a éliminé les péchés ne sont éliminés que lorsqu'il y a de notre côté une procédure de croire. Cependant, cela n'est que de la foi qui travaille. Peu importe combien nous proclamons que nous croyons en Dieu, si le contenu même de cette foi n'est pas la vérité, cette foi devient finalement un mensonge et une fausse foi. De même qu'il n'est plus nécessaire de porter une montre parce qu'il y a des téléphones portables de nos jours, il semble que cela fasse plus de 10 ans que j'ai retiré ma montre. Voici une bague en or 14 carats. Elle a été fabriquée en 14 carats dans une bijouterie. Lorsque quelqu'un m'a donné cette bague, devient-elle du 14 carats seulement si je m'efforce en disant « je crois que c'est du 14 carats » ? Si le fait que cela soit du 14 carats est immuable, je n'ai rien d'autre à faire que de le reconnaître simplement tel quel. C'est simplement de l'or 14 carats sans avoir besoin d'essayer d'y croire. Le salut est aussi ainsi. Si le Seigneur a éliminé nos péchés par l'eau et l'esprit, nous sommes devenus par cela même des personnes sans péché. Il n'est pas nécessaire de crier « je crois ». Bien sûr, cela ne signifie pas que le salut est obtenu même si l'on ne croit pas. Comme le dit la parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si nous reconnaissons la vérité que le Seigneur a éliminé tous nos péchés, nous devenons immédiatement libres du péché. La logique selon laquelle les péchés demeurent parce que nous ne croyons pas, même si le Seigneur a versé son sang précieux et a lavé les péchés, et que les péchés ne sont éliminés qu'au moment où nous croyons, est un labeur religieux et constitue finalement une œuvre. Que serait le fait de lutter pour se forcer à croire ce qui n'est pas accepté dans le cœur, sinon une œuvre ? Creuser la terre et couper le fer ne sont pas les seules œuvres. Le Seigneur nous donne l'évangile de l'eau et de l'esprit et nous dit « C'est le salut par lequel je vous ai sauvés ». Alors nous en venons à répondre « Je vois, c'est exact. L'évangile de l'eau et de l'esprit m'a sauvé. C'est cela la véritable foi. » Dire « je crois » par contrainte est la preuve que je suis en train de faire une œuvre. Et cela revient à dire que je crois par ma propre force parce que la vérité n'est pas réellement crue. La foi est quelque chose de très subtil ainsi. Reconnaître un fait comme un fait, c'est connaître la vérité, et cette connaissance elle-même devient la foi. Si l'on connaît la vérité, on en vient naturellement à croire. Parce que le Seigneur est venu sur cette terre et nous a sauvés par l'eau et le sang, nous avons simplement reçu le salut. N'est-ce pas ? Il n'y a que la différence de savoir si l'on connaît la vérité ou non, parce que le Seigneur nous a sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous sommes des êtres déjà sauvés. Le salut dépend du Seigneur, non de nous, parce que le Seigneur est notre sauveur parfait. Aujourd'hui, il y a vraiment de nombreux aspects regrettables dans le monde chrétien. Je parle aussi des vérités très fondamentales concernant le tabernacle. Il n'y a pas un seul ustensile ni un seul élément de la structure du tabernacle qui ne soit lié à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, ceux qui se disent évangéliques, tout en parlant du salut de Jésus, exhortent toujours à la fin. Croyez cela. Mettre l'accent sur le fait de croire revient finalement à pousser à faire une œuvre. Ils disent de telles paroles parce qu'ils ne connaissent pas pleinement la vérité. « Je vous prêche à tous l'évangile clair de l'eau et de l'esprit. » Lorsque le Seigneur a reçu le baptême de Jean, il a réellement porté les péchés de vous et de moi. En recevant le baptême de cette manière, Jésus a accompli toute justice et a pris sur lui les péchés de l'humanité. Est-ce un fait ou non ? C'est un fait. Jésus qui a porté les péchés a pris ses péchés du monde et est allé à la croix. Et il a été cloué à la croix, a versé son sang et est mort. C'est une réalité. Il a subi à notre place le jugement de justice. Le salaire du péché, c'est la mort. De plus, il est ressuscité pour nous sauver et est devenu notre sauveur éternel qui vit encore maintenant. Au moment où nous connaissons cet évangile de l'eau et de l'esprit, Jésus-Christ devient véritablement notre sauveur, n'est-ce pas ? La chose la plus importante pour obtenir le salut devant Dieu est de connaître la vérité. Si l'on connaît, on a reçu le salut. Cependant, si l'on ne connaît pas la vérité, les hommes essaient d'accomplir par eux-mêmes le labeur de la foi. Une personne qui ne prêche pas la vérité précise, en prêchant l'évangile, finit par croire en sa propre conviction. Et cela n'est pas différent d'une œuvre consistant à essayer d'obtenir le salut par sa propre force. Ce n'est pas le salut. Nous n'avons même pas besoin de faire le labeur de lutter pour croire. Si vous connaissez la vérité, vous en venez à réaliser concrètement qu'il n'y a plus de péché dans ce monde et en vous, parce que Jésus-Christ, qui est la vérité véritable, a parfaitement éliminé nos péchés. Si l'on examine profondément la Bible, on en vient à réaliser à quel point l'évangile prêché aujourd'hui par les gens est contradictoire. Lorsque Jésus a reçu le baptême, il a déjà porté nos péchés. Et comme le dit la parole, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste, il a pris sur lui tous les péchés de l'humanité par le baptême. Puisque les péchés ont déjà tous été transférés, je ne comprends pas pourquoi il continue à insister sur la foi humaine en disant « Les péchés ne sont éliminés que si l'on croit à l'Évangile ». Au moment où la vérité est reconnue comme vérité dans le cœur, la foi vient naturellement et la rémission des péchés s'accomplit aussi. Cependant, de nombreux évangélistes troublent les gens par des paroles absurdes parce qu'eux-mêmes ne croient pas. Même en expliquant le tabernacle, ils se contentent de dire que puisque nos péchés ont tous disparu par le sang de la croix, il n'y a plus de péché maintenant. Les paroles « Jésus est venu sur cette terre pour éliminer nos péchés et à laver nos péchés en versant son sang sur la croix » semblent plausibles à première vue. Mais le cœur le plus important manque en réalité. Toute la vérité est que Jésus a reçu le baptême de Jean-Baptiste pour éliminer nos péchés, a pris sur lui les péchés, a reçu le jugement en versant son sang sur la croix, en portant ses péchés du monde, et est ressuscité pour devenir notre véritable sauveur. Ce n'est que lorsque l'évangile de l'eau et de l'esprit est ainsi cru dans le cœur qu'il n'y a plus de péché. Il ne devient pas l'évangile simplement en rendant les phrases fluides. Si l'on lit la Bible mais que l'on comprend seulement le sang de la croix ou l'agneau de l'Ancien Testament de manière littérale sans être conscient du baptême que Jésus a reçu de Jean, ce n'est qu'une logique qui ne tient pas. Si Dieu disait « Je vous sauverai si vous croyez simplement », sans une loi claire appelée la vérité, Dieu deviendrait un être injuste. Que nous croyons ou non du côté de Dieu, il a déjà parfaitement éliminé nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Parce que c'est une vérité immuable, nous n'avons pas de péché, et parce que ce fait est clair, il est cru. Comprenez-vous mes paroles ? Les évangélistes d'aujourd'hui ne font qu'imposer que l'on doit croire sans condition. Comme il est écrit dans la prière du Seigneur, « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel », Dieu a déjà envoyé son Fils unique et a lavé tous nos péchés par le baptême et la croix. Néanmoins, comment l'affirmation selon laquelle les péchés restent encore parce que les hommes ne croient pas peut-elle avoir un sens ? En examinant de telles affirmations, le fait décisif que Dieu a envoyé son Fils pour recevoir le baptême de Jean et qu'ainsi il a fait porter à son Fils nos péchés fait défaut. Même si une phrase a un sujet, un objet et un prédicat et semble correcte, elle ne sert à rien si le noyau le plus important manque. Si l'on ne peut pas relier en un seul ensemble le baptême que Jésus-Christ a reçu de Jean et le sang de la croix, cette foi ne peut pas être complète. Par conséquent, nous devons connaître la vérité correctement et entièrement. Les péchés disparaissent-ils simplement en criant « Je crois en Dieu » Je veux clairement distinguer le vrai du faux sur ce point. Bien que la force de la chair puisse être faible, après avoir prêché toutes les paroles concernant le tabernacle, je questionnerai avec assurance ceux qui prêchent un faux évangile. Je dirai « Les péchés ont-ils vraiment été éliminés en croyant de la manière dont vous parlez ? N'est-ce pas que vous forcez les autres à croire par contrainte parce que vous-même ne croyez pas ?» Il vaut bien mieux prêcher des milliers de fois le fait que Jésus a reçu le baptême de Jean-Baptiste et a porté tous les péchés du monde. Il est juste de prêcher la vérité que, par suite de ce baptême, il n'avait d'autre choix que de verser son sang et de mourir sur la croix, et qu'il est revenu à la vie pour nous sauver et faire de nous ses enfants. Il faut prêcher la vérité au lieu de presser les gens de croire. Que cela soit compris ou non, il faut prêcher la vérité elle-même de manière répétée. Car au moment où l'on connaît correctement la vérité elle-même, toutes les inquiétudes et tous les problèmes du péché prennent fin. La vérité qui existe indépendamment de l'effort humain. Les gens parlent et croient à l'Évangile de manière tellement absurde. Beaucoup d'évangéliques affirment avoir reçu la rémission des péchés en croyant en Jésus. Mais si l'on examine de près les livres qu'ils ont écrits, cela ne diffère pratiquement pas du fait de ne pas avoir de foi. Puisque les dirigeants eux-mêmes ne connaissent pas la vérité, ils restent eux-mêmes dans un état où ils ne peuvent pas croire. Ils ne connaissent pas du tout le fait que lorsque Jésus-Christ a reçu le baptême, leurs propres péchés et tous les péchés de l'humanité ont été transférés sur lui. Si un évangéliste connaît la vérité que Jésus a porté les péchés de l'humanité lorsqu'il a reçu le baptême, qu'il est mort, cloué à la croix en portant ses péchés, et qu'il est ressuscité pour devenir le véritable sauveur, l'évangéliste n'a qu'à prêcher cette vérité seule. Le reste dépend de Dieu, et si les gens reconnaissent correctement la vérité, la foi surgit naturellement. Même si l'on ajoute des illustrations et des explications et que l'on dit que les gens ont compris quelque chose, à quoi cela sert-il ? La logique souvent vue dans des groupes comme la secte du salut, disant « Je ne croyais pas auparavant, mais maintenant que je crois au sang de la croix, les péchés ont disparu », n'est pas un salut réel. Parce que tant le prédicateur que le croyant font finalement leur propre œuvre en s'efforçant de croire, cela n'est qu'un effort vain. Si vous pensez que les péchés ont disparu parce que vous avez cru, redevenez-vous pécheur lorsque vous ne pouvez pas maintenir cette foi, la véritable vérité, est quelque chose que Dieu a déjà accompli de son côté, indépendamment de nous et sans même nous le demander. Dieu a envoyé son Fils pour recevoir le baptême de Jean, transférant ainsi nos péchés sur lui. Il a chargé le Fils des péchés et lui a fait subir le jugement sur la croix et il l'a fait ressusciter pour devenir notre véritable sauveur. Que nous croyions ou non, le Seigneur a déjà éliminé nos péchés de cette manière. Lorsque l'on réalise cette vérité, parce que l'on connaît le fait qu'il n'y a plus de péché, on en vient à croire naturellement. Se forcer à promettre « croyons, ne changeons pas » n'est pas la foi. De telles paroles ne sont-elles pas finalement les confessions de personnes qui ont lutté pour croire par leur propre force parce que la vérité ne s'est pas établie dans leur cœur ? C'est une foi fabriquée par soi-même et simplement une foi typique qui travaille. Moi aussi je n'ai pas été sauvé de cette manière. Lorsque je croyais autrefois seulement au sang de la croix, j'étais tourmenté à cause des péchés que je commettais chaque jour. Je criais à l'assemblée de se repentir, mais lorsque le culte était terminé, je voulais me cacher dans un trou de souris. À cause du sentiment de culpabilité que je n'étais pas en position de crier à l'assemblée, je me prosternais dans le sanctuaire et je ne pouvais même pas partir avant que tous les membres de l'assemblée ne soient rentrés. Ne croyais-je pas en Jésus à cette époque ? Ne croyais-je pas au sang de la croix ? Je croyais à tout cela. Cependant, lorsque je commettais des péchés personnels, le péché demeurait encore. Qu'est-ce qui n'allait pas ? C'était précisément parce que je ne connaissais pas la vérité. Alors, j'ai réalisé la vérité. En lisant les paroles qui suivent à partir de Matthieu chapitre 3, verset 13, toutes mes inquiétudes ont pris fin. Puisque le Seigneur a dit « Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste », tout était accompli par cela. Le principe par lequel Abraham a cru la parole de Dieu et le fait que nous reconnaissions les paroles écrites dans la Bible telles qu'elles sont identiques. J'ai réalisé ce fait. Ah, tous mes péchés ont été transférés lorsqu'il a reçu le baptême de Jean-Baptiste. Non seulement mes péchés, mais aussi les péchés de toute l'humanité ont été transférés à Jésus de la manière la plus appropriée. Parce que Jésus n'aurait pas pu porter les péchés de l'humanité s'il n'avait pas reçu le baptême, il a reçu le baptême, et à ce moment-là, mes péchés ont aussi été transférés. Ainsi, le Seigneur est devenu l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et il a pu dire sur la croix, « Tout est accompli ». Au moment où j'ai connu ce fait, les nuages se sont dissipés, et la lumière est entrée dans mon cœur. Le cœur de l'Évangile est la béatitude d'une vie sans péché. Comment peut-on omettre ce contenu essentiel en prêchant l'Évangile ? Les gens font semblant d'être spirituels à l'extérieur et agissent comme s'ils connaissaient entièrement l'Évangile. Mais en réalité, ils n'en connaissent pas du tout le noyau. Il y a des personnes qui agissent avec arrogance, comme si elles étaient de grands êtres. Mais tous sont les mêmes. Ce sont des êtres faibles, pas différents d'un enfant qui doit étaler un journal et se soulager en urgence. Il n'existe personne comme un esprit de montagne dans ce monde. La chair est la chair et l'esprit est l'esprit. Bien que nous ayons reçu la rémission des péchés et que le Saint-Esprit soit en nous, la chair demeure encore en nous. Par conséquent, nous devons dominer la chair en suivant la direction du Saint-Esprit et vivre en poursuivant la justice du Seigneur. Je ne dis pas ces paroles pour être sarcastique envers les gens. C'est parce que le fait de voir ceux qui se disent évangéliques clamer l'évangile de la rédemption ou l'offrande sacrificielle d'expiation, sans même connaître correctement l'évangile de l'eau et de l'esprit, est vraiment vain. Leurs paroles, dont le noyau est absent, ne sont finalement que des mensonges. Quelqu'un a même écrit un livre sur le tabernacle. Il a décrit la scène de l'offrande sacrificielle mourant à l'autel des holocaustes de manière très héroïque et assurée. Cependant, lorsqu'il s'est agi de la porte du tabernacle, ils ont manqué le but, et lorsqu'ils sont arrivés à la cuve, ils n'ont même pas pu s'immerger dans l'eau de la vérité. Et sans en connaître le goût, ils ont simplement tourné autour, et cela s'est terminé. Puis, arrivés à la porte du lieu saint, ils ont étalé leur propre vantardise et celle de leurs membres, agissant comme s'ils étaient des personnes spirituelles connaissant tous les secrets du tabernacle. Comme s'ils étaient les seuls à connaître des vérités profondes que les autres ne connaissent pas. Cependant, la vérité doit être la vérité lorsque je la vois, et la vérité lorsque les autres la voient. Que le diable la voit, ou qu'un ange la voit, quel que soit celui qui la voit, et même si Dieu la voit, elle doit être immuable pour être la vérité. N'est-ce pas? L'évangile de l'eau et de l'esprit par lequel Dieu nous a sauvés est un évangile clair pour quiconque le voit. En dehors de cet évangile, existe-t-il un autre moyen qui puisse éliminer complètement nos péchés? Existe-t-il un autre évangile? En prêchant cet évangile clair, où est le besoin de prétendre être spirituel et d'embellir les paroles? De telles paroles prétentieuses ne sont que des propos absurdes. Autrefois, lorsque la nourriture était rare et que nous ne mangions que de la soupe de légumes, les selles durcissaient et nous souffrions. Quand j'étais jeune, j'ai très souvent vécu de telles choses. Si une personne devait vivre toute sa vie dans une telle souffrance, comment pourrait-elle fonctionner correctement en tant qu'être humain? C'est pourquoi, lorsque les gens entendent des propos absurdes qui ne correspondent pas à la raison, ils disent que c'est insensé. Chers tous, Jésus a porté nos péchés par le baptême et en mourant sur la croix, et en ressuscitant, il a parfaitement éliminé tous nos péchés. C'est la vérité. Si un seul élément parmi la naissance de Jésus, le baptême, l'effusion de son sang sur la croix, et sa mort, et la résurrection manque, cela ne peut jamais devenir un salut complet. Peu importe combien on témoigne en disant « Je me suis prosterné toute la nuit en me repentant et en pensant au sang de la croix, et mes péchés ont disparu », cela n'est finalement que le résultat d'un travail accompli par son propre effort toute la nuit. La Bible désigne une telle foi. Et l'appelle « foi qui travaille ». La bénédiction de celui qui a reçu la rémission des actes d'iniquité. L'apôtre Paul a cité la confession de David en parlant du bonheur humain. « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. » Romains chapitre 4, versets 7 à 8. Concernant l'expression selon laquelle les péchés ont été couverts, il ne faut pas l'interpréter seulement littéralement et comprendre que Dieu considère simplement qu'il n'y a pas de péché parce que l'on croit en Jésus, même si le péché demeure encore. Que les actes d'iniquité aient reçu la rémission signifie que le péché a été complètement lavé et a totalement disparu. Cela signifie que tous les problèmes de péché de notre vie ont été résolus. Cela parle du fait que Jésus a éliminé tous mes péchés et les tient par l'évangile de l'eau et de l'esprit. En recevant le baptême, il a pris sur lui les péchés, et en mourant sur la croix et en ressuscitant, il a accompli le salut. La parole disant « Heureux celui dont les péchés sont couverts » ne signifie pas qu'il les ignore, même s'il y a du péché. Cela signifie que, parce que Dieu a déjà parfaitement éliminé le péché, il a clairement confirmé ce fait de salut dans nos cœurs. Si l'on interprète la Bible seulement selon la lettre, ce n'est rien d'autre qu'une connaissance morte. La Bible dit « Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie ». 2 Épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 6. Si l'on reste enfermé dans la lettre, en insistant « je crois ainsi » et que l'on comprend mal la Bible, on ne peut jamais parvenir au salut. Alors, qui est réellement la personne à qui le Seigneur n'impute pas le péché? Est-ce simplement une personne qui croit aveuglément? Non. C'est la personne qui connaît et reconnaît la vérité claire que le Seigneur a déjà éliminé tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. La raison pour laquelle Dieu n'impute pas le péché de cette personne est claire. C'est parce qu'il a lui-même directement éliminé ce péché. Parce que Dieu lui-même est venu sur cette terre, a reçu le baptême et est mort en versant son sang sur la croix, résolvant ainsi directement nos péchés, il ne peut plus nous tenir responsables du péché. Même après avoir reçu la rémission des péchés, parce que la chair est faible, nous commettons chaque jour des péchés en pensée, dans le cœur et par nos actions. Néanmoins, la raison pour laquelle Dieu ne nous reconnaît pas comme pécheurs est que son Fils a déjà porté toutes ses transgressions. Ceci est la vérité immuable. Je vous ai fait connaître tous ces faits par la parole. Croyez-vous cela? La personne dans le cœur de laquelle cette vérité est reconnue a déjà reçu le salut à ce moment-là. Lorsque Jésus est entré dans la maison de Zachée, il a dit « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison ». Tout comme Zachée a reconnu qui était Jésus et l'a accepté comme le Sauveur, réaliser la vérité, c'est le salut. Connaître Jésus, c'est connaître la vérité. Qui est Jésus? Il est celui qui est venu sur cette terre, a reçu le baptême et est mort sur la croix, éliminant ainsi tous les péchés de moi et de vous. Connaître clairement ce fait, c'est vraiment croire en Jésus. On ne reçoit pas le salut simplement en appelant son nom aveuglément. La foi pure comme l'étoile du matin. À l'avenir, je distinguerai clairement le vrai du faux concernant cette vérité. Je couvrirai le monde entier avec l'évangile de l'eau et de l'esprit. Une fois que je publierai le livre concernant le tabernacle, je poursuivrai ce travail de manière plus concrète. Jusqu'à présent, je l'ai transmis avec prudence, mais maintenant je mettrai complètement au jour la réalité de la fausse foi. Je crierai « Avez-vous vraiment reçu la rémission des péchés en croyant de cette manière ? C'est faux, ce n'est pas le salut. » Je demanderai comment il aurait pu vous sauver sur la croix, alors que Jésus n'a même pas reçu le baptême pour vous. Dire que l'on croit simplement sans connaître la vérité n'est qu'une auto-tromperie. Je continuerai sans cesse l'œuvre de prêcher cette vérité sans m'arrêter. Même si je ne lis qu'un seul verset de la Bible, je peux prêcher toute la journée le sens profond qu'il contient. Le fait que Dieu a reconnu la foi d'Abraham est parce qu'il a reconnu telle qu'elle le fait même que Dieu avait parlé. Ce n'est pas parce qu'Abraham a été reconnu pour avoir cru en Dieu avec son propre zèle. Cela signifie que son cœur était pur. Connaissez-vous le sens des deux caractères pour pureté? Une fleur purement jaune est une fleur jaune et une fleur rouge est une fleur rouge. Accepter la forme telle qu'elle est, même avant de lui donner un nom, c'est cela la pureté. De même qu'il est très agréable de voir une personne pure, Dieu est aussi heureux lorsque nous sommes purs. Si Dieu a parlé, la situation est terminée par cela. Mais si l'on étale toutes sortes de sophismes en disant que l'on va prouver sa propre foi, combien Dieu doit-il se sentir frustré? La parole de Dieu qui est à la vérité est la vie elle-même. Abraham a cru purement, telle qu'elle, la parole que Dieu rendrait sa descendance aussi nombreuse que les étoiles. Notre salut est le même lorsque Jésus a dit « Je recevrai le baptême pour prendre vos péchés, porter les péchés du monde, mourir sur la croix et vous sauver complètement de tous vos péchés. » Dire simplement « oui » et l'accepter est la pureté. Reconnaître telle qu'elle, sans ajouter ni retrancher un seul iota au fait que le Seigneur a tout accompli par le baptême, la croix et la résurrection, c'est exactement la foi comme l'étoile du matin que Dieu désire. Quelle logique complexe était nécessaire ici? Et pourquoi aurait-on besoin de ses propres pensées? Si Dieu a parlé ainsi dans la Bible, c'est immédiatement la vérité. Moi aussi, j'ai des moments où mes pensées deviennent nombreuses. Mais lorsque j'ouvre la Bible et que je confirme la parole de Dieu, toutes les pensées humaines cessent immédiatement. Je me frappe le genou en disant « Ah, j'ai encore pensé à des pensées inutiles ». L'apôtre Paul a averti de ne pas penser au-delà de ce qu'il convient de penser. Les paroles de la Bible sont la vérité. Les pensées personnelles ou la logique des philosophes chrétiens ne sont pas la vérité. L'expression « je pense ainsi » n'est pas nécessaire. Il faut devenir purement un devant la parole de Dieu. Vivre comme une personne bénie sans travailler, si les gens connaissaient et croyaient correctement la vérité, prendrais-je la peine de continuer à publier des livres et à prêcher la parole? C'est parce que tout le monde ne fait que produire des paroles semblables à la vérité. Ce qui est semblable ne peut jamais être la vérité. De même qu'un rafraîchisseur d'air et un climatiseur se ressemblent, mais que leurs fonctions sont strictement différentes, ce n'est pas parce que la vérité est semblable que tout est identique. Même si ce sont les paroles d'une personne de faible statut, si elle réalise correctement la vérité et parle, je les accepte volontiers. Parce que le vrai et le faux doivent être clairs. Lorsque nous croyons en Jésus, nous devons être purs. Se vanter de ses propres talents et agir comme un singe ne parvient pas jusqu'à Dieu. Nous devons rejeter les pensées humaines et croire selon le sens spirituel consigné dans la Bible. Il est dangereux de comprendre la Bible seulement de manière littérale, simplement parce que l'on connaît la langue. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Romains chapitre 4, versets 4 à 5. Regardez ce verset et dire « Bien que je sois insuffisant, puisque Jésus a dit qu'il a éliminé mes péchés par le sang de la croix, essayons moi aussi de croire ainsi. » Ce n'est pas le véritable sens de la Bible. Cela peut sembler similaire littéralement, mais à l'intérieur est contenue la proclamation parfaite de Dieu « Je vous ai déjà sauvé sans même que vous ayez à faire le labeur d'essayer de croire. » Nous ne devons même pas faire le labeur d'essayer de croire. Celui qui s'efforce de s'accrocher à sa propre détermination ou à sa propre foi finira par être honteux. Dieu ne se plaît pas dans une telle attitude. Il faut connaître uniquement selon la vérité et reconnaître selon la vérité. Ce n'est qu'alors que nos cœurs peuvent obtenir la véritable paix. En écoutant la parole de Dieu, il faut écouter avec une réelle pureté. Même si l'on n'y avait pas encore pensé soi-même, si l'autre personne dit la vérité juste et interprète correctement la parole de Dieu, reconnaître en disant « oui, c'est ainsi » suffit. Si l'on répond « oui » à la parole disant « or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché », cela suffit. Il suffit de dire « oui » au fait qu'il a déjà éliminé nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Au moment où l'on ajoute une condition en disant « c'est vrai, mais… » la vérité devient obscure et l'on tombe dans le joug du labeur consistant à se forcer à croire en gardant toute sa vie un cœur qui ne croit pas. Réfléchissez-y, comment cette vie bénie, où l'on devient une personne heureuse sans avoir travaillé, où l'on reçoit la couverture des péchés et la rémission des actes d'iniquité, est-elle devenue possible? C'est précisément grâce à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Parce que ce fait est si reconnaissant, peu importe combien nous servons le Seigneur, nous ne pouvons jamais nous vanter nous-mêmes. S'il y a quelque chose dont on peut se glorifier, c'est uniquement le fait que l'évangile de l'eau et de l'esprit du Seigneur a parfaitement éliminé nos péchés sans rien de superflu. Parce que le salut est si parfait, il n'y a pas besoin de s'inquiéter en se demandant si l'on a reçu le salut ou non. Bien que ce ne soit qu'un corps insuffisant, si le Seigneur l'utilise, il n'y a que le cœur qui veut être utilisé sans réserve pour l'évangile, incluant pensée, cœur, temps et chair. Nous devons simplement aller dans le royaume du Seigneur après avoir vécu une telle vie. Et nous espérons sincèrement que davantage de personnes deviendront des saints heureux comme nous. Nous rendons de profondes actions de grâce au Seigneur qui nous a donné une telle bénédiction. Que sommes-nous, nous les êtres humains, pour qu'il nous ait accordé une telle grâce? Dans le monde, il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont fortes dans leur propre justice, prétendant être grandes, intelligentes et saintes. Cependant, je n'ai rien dont je puisse me glorifier devant vous. Ma conduite est-elle meilleure que la vôtre ou mon apparence est-elle remarquable? Même si d'autres se moquent de moi en disant que je suis disgracieux, cela ne m'importe pas. Qu'importe si l'on est un peu insuffisant sur cette terre. Car lorsque nous irons dans le royaume du Seigneur, nous jouirons éternellement et abondamment au bord du fleuve de l'eau de la vie. Chers tous, êtes-vous vraiment heureux? En vérité, il n'y a personne dans ce monde qui soit aussi heureux que nous. Dieu a-t-il éliminé nos péchés ou ne les a-t-il pas éliminés? Il les a éliminés. Si Dieu les a éliminés, alors nous n'avons pas de péché. C'est cela la vérité et la vraie foi. En rendant grâce pour cette grâce, je veux continuer à servir l'Évangile aujourd'hui et demain aussi. Si Dieu ouvre le chemin, je veux aussi acquérir beaucoup de biens matériels et développer puissamment un ministère de bienfaisance pour vous. Si je relève le défi de la foi, non par mes calculs, mais selon la méthode de Dieu, Dieu pourra tout accomplir. Si nous avançons par la foi, nous pouvons être victorieux dans n'importe quel domaine. Puisqu'il y a la sagesse donnée par Dieu, qu'est-ce que nous ne pourrions pas faire? Je conclurai la parole d'aujourd'hui avec un cœur reconnaissant envers Dieu qui nous utilise précieusement.